It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
Je sais que c'est décevant d'avoir écrit un livre de, je sais plus, 340 pages pour arriver à la conclusion que le problème de la pauvreté, c'est le match d'argent. Mais en même temps, on met tellement d'énergie, collectivement, à nier ce point, à se dire que le problème des pauvres, c'est tout sauf l'argent. C'est un problème culturel, c'est un problème de diplôme, c'est un problème de pratique, c'est un problème de plein de choses, mais c'est pas un problème d'argent. Moi, j'essaie juste de dire que si, en fait, oui, c'est un problème d'argent et c'est avant tout un problème d'argent.
Vous êtes jamais demandé, mais en fait, les pauvres, comment ça se fait qu'ils achètent toujours des conneries comme le dernier iPhone, des fringues de marque ou des écrans plats, alors que normalement ils n'ont pas d'argent? Et d'ailleurs, s'ils faisaient un peu moins n'importe quoi avec leur thune, peut-être qu'ils arrêteraient d'être pauvres justement. Ou alors, c'est qu'ils se la coulent douce avec nos allocs. Ça expliquerait aussi, notez. Et s'ils restent pauvres, c'est peut-être que c'est un peu des feignasses. Eh bien, si vous vous êtes posé toutes ces questions et quelques autres sur le sujet, Denis Colombi, sociologue de très 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 haut vol, a des réponses à vous proposer dans un ouvrage passionnant intitulé « Où va l'argent des pauvres ?». Il a poncé, décrypté, analysé toutes les études en sciences humaines parues depuis au moins un siècle. En espérant que vous le lisiez, on l'a interviewé. Il a un léger accent, mais tout ce qu'il dit est aussi clair, simple et limpide que brillant. Très bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Denis Colombi. Denis, tu es sociologue et tu as publié un livre qui s'appelle « Où va l'argent des pauvres ?» chez Payot. Alors, on va revenir un petit peu sur ton ouvrage. On comprend que le présupposé auquel tu t'attaques, c'est que les personnes qui sont pauvres utilisent mal leur argent. Ce serait un cliché qu'on aurait dans la tête. Tu as choisi une définition originale de la pauvreté. Alors, est pauvre en France, alors il y a plusieurs définitions, mais est pauvre en France quelqu'un qui gagnerait 855 euros par mois ou moins? Ça, on peut le dire. Les gens qui gagnent 855 euros ou moins en France, ça représente presque 5 millions de personnes.
Hein. Oui, c'est un chiffre qui est assez important. J'utilise parfois cette définition, elle est très utile pour étudier tes évolutions, c'est-à-dire combien de personnes vivent sous ce revenu-là. Mais évidemment, 840 euros, on est classé comme pauvre. Si on en a 860, on n'est pas classé comme pauvre, alors que la vie de la personne n'est pas forcément fondamentalement différente.
Toi, tu as retenu une autre définition que j'ai trouvé très intéressante. Tu te fondes sur les travaux de Georg Simmel, qui est un peu le sociologue de l'argent du début du siècle. Je cite de mémoire, en gros, serait considéré comme pauvre celui qui pourrait prétendre ou bénéficie de l'assistance de la société, de la mutualisation des subsides venus de la collectivité.
Voilà, ou à tout cas, une forme d'aide d'autrui. C'est-à-dire, Simmel définit la pauvreté comme étant une relation. C'est une forme de relation, de rapport aux autres. C'est pas simplement une situation économique, même s'il y a une situation économique derrière. Mais pour Simmel, ça se définit d'abord par cette relation de dépendance à autrui. Alors, dans notre société, ça va être de la dépendance plutôt au set public, où ça veut pas dire forcément qu'on a bénéficié, mais qu'on est dans une situation telle qu'on pourrait bénéficier.
C'est l'assister, en fait.
Voilà. Et, mais ça pourrait être, t'as d'autres sociétés, ça a été l'assistance par la charité, y compris la charité privée, par l'aide familiale ou des choses comme ça. Le texte Simmel, c'est de mémoire 1907 pour les pauvres, 1910 pour philosophie de l'achat. La définition est toujours travaillée par les sociologues parce que a défini ça comme ça, la pauvreté comme étant une relation à autrui, on sort de ce défaut des définitions purement statistiques. Un seuil est toujours arbitraire.
Oui, à 856 euros par mois, je ne suis pas riche pour autant.
Voilà,
en fait, hein.
C'est utile pour voir tes évolutions. Et puis, on peut avoir de très longs débats pour savoir qui est pauvre, qui ne l'est pas, en passant par le rapport à autrui et la position finalement que l'on nous assigne et qui nous est assignée à la société, on arrive à avoir quelque chose d'un peu plus objectif. Il y a aussi un retard négatif d'autrui qui à la fois est la conséquence de cette privation matérielle et qui en même temps la nourrit. Et il y a une certaine antipathie entre les deux, c'est-à-dire que on peut être dans une situation de faible revenu mais ne pas être tenu pour pauvre. C'est le cas que je prends dans le livre de certains intermittents du spectacle et de certains secteurs économiques, le secteur de la mode, par exemple. Alors évidemment, il y a tes top motels qui sont extrêmement bien payés, il y a tes créateurs, mais il y a aussi toute une masse de petites main-d'œuvres et d'aspirants top motels, aspirants créateurs, etc., qui sont très très mal payés, voire qui vivent littéralement sous le seuil de pauvreté.
Mais qui ne sont pas vus et qui ne se sentent peut-être même pas. Pauvres.
Voilà, ils ne se voient pas comme pauvres, ils sont dans une espèce de vie bohème. Ils vont accepter même cette pauvreté, et dans certains secteurs, ça peut même aller sur des formes de valorisation chez les artistes. Il y a une mythologie de l'artiste maudit qui vit à la, la pauvreté, voilà, un peu bohème. On retrouve ça aussi dans le milieu scientifique, où les jeunes chercheurs, jeunes doctorants dans certains domaines sont à des situations de pauvreté ou proches de la pauvreté, mais ne se vivent pas et ne sont pas vêtus comme ça, parce que après tout, ils sont pas dans le même type de relation à autrui.
Le pauvre, en fait, vraiment, ce qu'il définit, si je reprends ta définition, c'est donc l'assistana, hein, ce mot cher au parti politique, qui fait souvent débat. Et l'assistana, on voit qu'il est déjà alimenté par une méfiance, et ça, tu le montres bien dans ton ouvrage, c'est-à-dire qu'on ne fait pas très confiance au pauvre pour s'occuper de son argent. D'ailleurs, s'il savait bien s'occuper de son argent, il serait sans doute pas pauvre.
Non, c'est juste, oui.
C'est quand même ça l'idée. Et tu donnes un bon exemple sur la façon, par exemple, dont cette assistance peut être distribuée. Tu parles, par exemple, des chèques cadeaux que donnent certaines régions pour Noël aux ménages les plus pauvres, comme si le fait que ces chèques ne permettent d'acheter que des cadeaux pour les enfants, ça permettait d'être sûr que les parents n'allaient pas en faire autre chose, les boire ou les dépenser n'importe comment.
Voilà, on soupçonne en fait, c'est ce que ça traduit, ça existe. Alors en France, ça revient régulièrement, on a une polémique plus ou moins à nouveau marronnier depuis quelques années, à juillet, au moment où serait versée la RS, l'allocation de rentrée scolaire sur Est, il ne faudrait pas la donner directement aux écoles plutôt que la donner aux parents pour éviter qu'ils s'achètent des écrans plats. Toi, ça fait depuis 2011 qu'on a ça qui revient, toi, c'est toujours les écrans plats. Alors que,
des écrans plats, ouais.
Voilà, alors que on ne trouve plus de tube cathodique, t'as les matchs à ça. Si on veut acheter un... Il n'y a que des écrans plats, en fait.
Il n'y a que des écrans plats, ouais.
On peut pas acheter autre chose. Ce n'est pas un signe de richesse d'avoir un écran plat. Mais c'est resté, parce que les gens répètent, en fait, le même argument d'année en année. Donc, effectivement, c'est plus développé à tort aux États-Unis. On va avoir, on donne une partie de l'assistance publique à fonction des États sous forme de food stamps, de bons alimentaires, uniquement pour s'acheter de la nourriture. Et en plus, certains États, tu en fais passer tes règles, le temps qu'on ne peut pas les utiliser pour acheter tes poissons sucrés, pour acheter tes biscuits, pour acheter tes steaks, parce que le steak, voilà, on peut se dire les poissons sucrés, le biscuit, ça doit être justifié par le contenu calorique, sucré, c'est pas très bon pour la santé, effectivement. Mais t'as ce qu'il y a pour toi d'interdire trop pauvre. Pourquoi pas, ouais, mais bon. Mais le steak dinner, le repas avec le steak, c'est perçu comme aux États-Unis, voilà, c'est le bon repas.
C'est un luxe.
C'est un luxe. Donc,
et le pauvre, en fait, il doit faire attention,
voilà,
à son argent qu'on
attention.
Lui donne.
Voilà.
Et donc, il ne doit pas le dépenser en luxe.
Et ce qui est intéressant par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les personnes qui ne se sentent pas pauvres, les intermittents du spectacle, par exemple, ils sont un système finalement d'allocation. C'est le statut d'intermittent du spectacle. Telle location qui leur est donnée lorsqu'ils ne travaillent pas pour un orchestre, pour une troupe. On a une allocation qui leur est donnée. Mais qu'on ne passe pas comme assistance On la passe comme une rémunération qui vient compenser le fait qu'ils sont dans ce secteur qui est par nature extrêmement
précaire,
où étatonner les conditions de la production autour de projets qui sont forcément temporaires, il y a forcément des périodes où on ne peut pas être en emploi et autant qu'il faut avoir une compensation. Mais ce n'est pas vu comme de la système. Alors, il y a plein d'autres attaques qui ont été faites à ce système. Il a été remis en cause sur plate-plein et des choses comme ça. Il ne s'agit pas de dire que tout va bien pour les intermittents du spectacle.
Mais en tout cas, ce n'est pas vu comme
mais
de...
C'est pas vu comme de la système. C'est vu comme tu soutiens la culture.
Et d'ailleurs, on ne demande pas régulièrement aux intermittents qu'ils dépensent bien leur argent.
Voilà.
En revanche, le pauvre... Bah, on pense par exemple à conditionner le RSA à une activité pour être sûr qu'il ne fiche pas rien.
Parce que quelque part, cet argent que lui donne, ce n'est pas le sien, c'est le nôtre. Il ne le mérite pas, justement. On le lui donne, ça c'était déjà quelque chose d'observé si mal. Et qui finalement, cette assistance, elle ne pourra jamais être à un niveau élevé parce que simplement, les personnes qui l'attendent n'ont pas le souci du bien-être des pauvres, ils ont le souci du bien-être de la société. Défini à ta communauté politique. Notre bien-être. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on a des systèmes d'assistance aujourd'hui ? C'est pas pour éliminer la pauvreté ou c'est pas tellement passé comme ça. C'est parce qu'on se dit, si on a des personnes qui sont pauvres, et ben elles peuvent tomber dans la criminalité. Donc, on leur donne de l'argent pour éviter qu'elles ne tombent dans la criminalité. Ou on se dit, c'est de la main-d'œuvre qui n'est pas disponible pour le marché du travail. Il faut la rate disponible, donc il faut investir à capital humain. Donc, on va éviter qu'ils s'éloignent trop du marché du travail en leur donnant un revenu minimal. D'ailleurs, on n'associe pas les pauvres à la définition des politiques qui les concernent. Ça aussi, Simmel le remarquait, l'administration des pauvres, c'est une administration dont les usagers, les pauvres, sont exclus de la gestion, à la fois de la gestion et de la définition même.
On
leur demande pas leur avis. On n'a pas des syndicats de pauvres qui peuvent négocier, comme on a des syndicats professionnels qui vont négocier et qui sont institués à la loi, c'est le dialogue social, ils doivent rencontrer le patronat, etc.
Ça me fait penser à quelque chose d'autre dont tu parles dans ton ouvrage. Tu parles d'un ouvrage où est interviewé un Trumpiste lors de manifestations qui a bénéficié lui-même du Medic Aid, donc l'équivalent de l'aide aux plus démunis pour la santé. Mise en place par Obama. Et qui, dans ses déclarations, explique qu'il est complètement, évidemment, anti-Medic Aid et pro-Trump et anti-Obama. Alors on peut se demander d'où vient cette contradiction. Et toi, tu le relèves, et ça expliquerait aussi pourquoi il n'y a pas de syndicats de pauvres, ou pas tellement. C'est qu'en fait, les gens pauvres, ils n'aiment pas être pauvres. Personne n'aime les pauvres, y compris les pauvres.
Oui, c'est une identité négative, c'est-à-dire qu'elle n'est pas définie par quelque chose de positif. Je suis assainien, je suis ouvrier. Ouvrier, c'est une identité positive. On peut être fier d'être ouvrier. Les pauvres ne sont pas censés être fiers d'être pauvres. Eux-mêmes, sans ce stigmate négatif qui pèse sur eux, et vont avoir comme souci souvent d'essayer de s'en extraire. Après l'élection de Trump aux États-Unis, on avait des journalistes qui allaient voir les pro-Trump pauvres au moment où ils se rataient d'autres que, en fait, ouais, ils allaient perdre leurs revenus qui leur permettaient de vivre parce que Trump allait les supprimer ou le Obamacare, comme il s'appelait ça, de façon méprisante, qui a fait, en fait, ils méprisaient parce que certains n'avaient pas fait le lien entre Medicaid et Obamacare. Ils passaient de ces deux choses différentes. Alors, ça a été signé la même chose. Bref, on a eu ça. C'est toujours un souci, en fait, de dire, moi, je suis pas pauvre. Moi, je vais m'en sortir bientôt. Je vais sortir de là. Je ne suis pas comme les autres.
Ces problèmes de pauvres ne me concernent pas.
Voilà. Et ça va juste à expliquer certaines des formes de consommation de pauvres qui peuvent s'appeler, vu de l'extérieur, irrationnelles. On a un autre bouquin que je cite beaucoup qui s'appelle « Deux générations de la débine » de Jean-François Lahaye et Numa Murat. Ce sont deux sociologues qui ont étudié la ville d'Elbeuf à Normandie, une ville sinistrée par le chômage, par la pauvreté. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils s'y sont allés deux fois à 20 à l'écart. Ils ont pu voir justement deux générations marquées par la pauvreté. Et entre autres observations, il y a deux quartiers, l'un qui est vraiment très très pauvre et l'autre qui est pauvre mais un petit peu moins. Et il y a déjà un souci de ceux qui sont dans le quartier un peu moins pauvre de bien se séparer symboliquement, de dire nous on n'est pas comme les chassos, et c'est le terme qui est utilisé, hein, tu as vraiment mépris ça, comme les chassos de ta face, nous on est mieux, on n'est plus proche tu travailles, on se troque pas, voilà, on n'est pas tes lettres et tes choses comme ça. Et il y a aussi ce souci de continuer à fumer.
Fumer des cigarettes en paquet.
Cousu, voilà, surtout pas rouler soi-même, parce que aussi longtemps qu'on peut fumer ces cigarettes-là, ça veut dire qu'on n'a pas touché le fond. Ça veut dire qu'on est encore un peu au-dessus d'être complètement noyé. Ça veut dire qu'on n'est pas encore entièrement pauvre.
Donc on a encore là un bel exemple de où va l'argent des pauvres, dans des paquets de clopes hors de prix, mais qui ont pour but symbolique de se démarquer d'une pauvreté plus grande, entachée de plein de clichés sous-jacents.
Et qui est effectivement une consommation qui appartient au statatoire. C'est là pour montrer qu'on n'est pas pauvre, mais qui est psychologiquement absolument nécessaire pour des personnes qui, autrement, souffrent de stigmates négatifs. Si, à la rigueur, on passe que... Et c'est effectivement quelque chose de tout à fait souhaitable que les chats fument moins d'une façon générale. Si on veut que les pauvres fument moins, le plus simple est peut-être d'arrêter de faire de la pauvreté à stigmates.
Les pauvres. Alors, il y a ce fameux pauvre qui bénéficie des allocations et qui ne se lève pas le matin, hein, ça, on a beaucoup entendu parler.
Pourquoi tout le monde ne fait pas ça? Parce que ça a l'air tellement confortable, qu'on l'a écrit par certains politiques, ça a l'air génial comme mode de vie, mais étonnamment...
Il se la coule douce, avec notre argent, et tu écorches un petit peu quand même ces idées, en commençant par parler d'une étude de Charles Wright Mills, en gros qui s'interroge sur la responsabilité individuelle du pauvre. Autrement dit, s'il y a un pauvre, on peut se dire qu'il est feignant, que c'est un arnaqueur, un profiteur. Mais quand il y en a une proportion non négligeable dans la société, ça fait quand même beaucoup de paresseux.
Oui, c'est-à-dire, ça, c'est un point de méthodologie de sociologie. En fait, c'est un bouquin de Charles Wright Mills qui s'appelle « L'imagination sociologique ». Son idée, c'est qu'on affronte des problèmes et des épreuves individuelles en permanence. On a des difficultés chacun. Et on en a un certain nombre qui doivent être reliés à tes problèmes collectifs, à tes enjeux collectifs, qui justement dépassent le seul niveau de l'activité. Il prend cet exemple-là, il le prend avec le chômage, il dit « si tu as une communauté, on a une personne au chômage, on peut peut-être se dire que c'est une difficulté individuelle et on peut peut-être chercher à se dire pour... »
Il n'est pas très doué celui-là.
Il n'est pas très doué, ou il n'a pas assez de diplôme, ou il a un problème. Voilà, on peut chercher une chose à dire. Mais quand tu as une même communauté, on a 10 000 chômeurs. On peut plus poser la question dans le même terme. C'est-à-dire, il va falloir expliquer... Imaginons que ce soit parce qu'il y a... imaginons même que ce soit 10 000 paresseux. Pourquoi y a-t-il 10 000 paresseux? Pourquoi la société produit-elle, l'organisation collective produit-elle ces 10 000 paresseux? Alors, lorsqu'on a, comme en France, plusieurs millions de personnes qui vivent à la pauvreté, plusieurs millions de personnes qui vivent au chômage, expliquer ça simplement à qui ça, c'est chacun qui a une petite difficulté personnelle qui est paresseux, mais on ne sait pas trop d'où ça vient, c'est pas intéressant. Si à la rigueur, on passe de ce qu'ils sont paresseux, il faudrait expliquer. Pourquoi il y a autant de paresse et pourquoi d'autres ne sont pas paresseux? Mais je pense qu'on ira, on va aller très vite, on va très vite voir que expliquer par la paresse, simplement, ça marche pas, parce qu'en fait, les pauvres et les chômeurs font énormément de choses à la journée, travaillent beaucoup, mais ils ne sont pas payés pour, ont toutes sortes de difficultés, et que cette explication ne marche pas. Mais il va falloir trouver une autre explication, il va falloir trouver une explication qui soit finalement du même niveau, qui soit une explication de pourquoi sont-ils dans cette situation-là. Ça ne peut pas s'expliquer simplement par une caractéristique individuelle de chaque personne.
Alors, on va détailler, parce qu'effectivement, tu montres dans ton ouvrage comment... Être pauvre, c'est quasiment un job à plein temps. Mais juste pour terminer sur la stigmatisation, il y a un chapitre que j'ai trouvé très intéressant sur les footballeurs et l'argent des footballeurs qui est scruté, jugé, souvent stigmatisé. Qu'est-ce qu'ils en font? Bon, en gros, c'est des grosses bagnoles, des fringues hors de prix, des jets privés, du show-off.
On leur reproche pour tout ça et on reproche beaucoup moins finalement la même chose ou pas dans les mêmes termes lorsque ça vient de traiteurs, de PTG, de trates d'entreprise, etc.
Et pourtant, ou de vieilles familles riches, d'héritiers de Hermès,
ou d'héritiers de vieilles familles riches, ou pourtant on va retrouver grosses voitures, boîtes de nuit, prostitution aussi. Je pense que les traiteurs de Wall Street ont une certaines pratiques à la matière, mais c'est, ça va même peut-être être folklorisé, c'est-à-dire si on voit le Loot Wall Street ou le film Wall Street aussi sur Day Trader, etc., ça a presque un côté mythologique.
C'est rigolo.
Voilà, c'est rigolo et ça peut même attirer un certain nombre de personnes pour ça.
Et les plus grandes fortunes, on ne les questionne jamais.
On les questionne beaucoup moins.
Le descendant Hermès, on ne lui demande pas ce qu'il fait de son argent.
Voilà. Alors, ils ont aussi, ça toute, une habitude, un certain nombre d'entre eux, d'être plus discrets. Ils dépassent beaucoup et de façon très ostentatoire, mais on les voit moins. Qu'est-ce qu'on reproche aux footballeurs? C'est pas simplement d'avoir beaucoup d'argent, ni même d'avoir beaucoup d'argent parce alors qu'il faut un travail pas très subtil, parce que sinon, on devrait se poser la question des actionnaires. Dont la participation à la production est parfois tout à fait théorique ou TPTG. Franck Pouyanné a publié plusieurs fois son salaire ces derniers jours en montrant qu'il a revenu, il gagne 7 millions d'euros à peu près par année. Est-ce que sa contribution à la production totale est équivalente à ça? Je suis pas sûr à ça pour ça si on essaie de le quantifier. À tout cas, je pense que s'il se met à crève tout seul, il va beaucoup moins plotter le pays que si ce sont les ouvriers des raffineries. Bon, les footballeurs, on questionne parce qu'en fait, déjà, ils sont des consommations effectivement peut-être un peu plus visibles que les centres, et puis parce qu'ils viennent de milieux populaires pour une grande partie d'entre eux.
En fait, le footballeur, c'est le pauvre.
Le footballeur, c'est
un pauvre qui a réussi.
C'est le pauvre qui a le défaut d'avoir de l'argent. Avoir de l'argent, tiens, on est riche, ça va. Avoir de l'argent, tiens, on est pauvre.
L'origine des footballeurs, c'est à je ne sais combien de pourcents, enfin 90% des gens.
C'est devenu un crowd party, effectivement. Tes personnes, non seulement te classe populaire, mais en plus, souvent avec tes parents ou tes traparents immigrés, et d'autres sont des personnes qui sont racisées par les métiers, etc. On rappelle qu'ils sont musulmans, qu'ils sont arabes, qu'ils sont plaques, puis si on veut pas dire noir en France, voilà, on a eu toute cette thématique plaque, plaqueur à un moment donné, et avec quatre remarques racistes.
Et ils ont des problèmes de pauvres. Parfois, il y a plusieurs affaires de footballeurs qui se font un peu racketter par leurs anciens copains du quartier, ou par leur famille, ou...
Voilà, on a...
Donc il y a cette origine sociale qui se rappelle à eux de toute façon,
et
qui se rappelle à nous.
Et cette origine sociale fait qu'on a une perception de leur richesse qui est différente de la façon dont on perçoit une autre richesse. Ce sont des pauvres avec de l'argent. Ça, c'est Michel Passant et Monique Passant-Charlot qui l'avaient montré. La richesse, ce n'est pas simplement une richesse économique. Il ne suffit pas d'avoir de l'argent pour faire partie du milieu des riches, pour rechouettre justement ses familles fortunées, ses héritiers, etc. Il faut aussi avoir justement une naissance. Si on n'a pas la naissance, il faut créer sa dynastie, en se conformant à un certain nombre de règles, un état accepté dans un certain nombre de lieux, par exemple être accepté à tes cercles de la richesse. Les footballeurs n'ont pas tout ça. Du coup, on perçoit leur argent comme beaucoup moins légitime, parce que finalement, on les voit comme des pauvres qui ne devraient pas avoir de l'argent, qui ne savent pas l'utiliser.
Il y a un autre cliché que tu renverses. On a vu beaucoup de reportages, c'est un peu un marronnier, sur les gagnants du loto qui pètent les plombs. Donc des pauvres gens qui soudain reçoivent énormément d'argent et qui ne sauraient pas le gérer.
Oui.
Et en fait, c'est pas si vrai.
Non.
Ça, c'est incroyable, parce qu'on en a vu, hein, ça, quand même. Des,
non, et là, genre, c'est Michel Passant et Monique Passant-Charlot. Ils sont achetés sur les gagnants du loto. Donc, ils sont rentrés à Chotac avec la Française des Jeux. Il leur a fourni le Chotac, la possibilité de rajouter tes gagnants du loto. En plus, ils ont cherché les gras gagnants. Alors, ils montrent que déjà, c'est une majorité de personnes, sinon pauvres, au moins de catégorie populaire, simplement parce que c'est ceux qui jouent le plus. Les personnes avec plus d'argent jouent moins au loto. Donc, nécessairement, sont moins représentées à l'écran.
Attends, les personnes avec plus d'argent jouent moins au loto?
Oui. Ce sont les,
c'est... Ça, c'est statistique.
Oui, oui, oui. Les personnes qui jouent le plus au jeu d'argent, d'une façon générale, c'est les plus pauvres.
Où va l'argent des pauvres? Dans la Française des Jeux.
À partie. Quand on est pauvre, on achète aussi la possibilité de rêver pendant quelques instants qu'on pourra sortir de la pauvreté. C'est un moyen...
Et c'est vrai qu'il n'y a pas 36 000 méthodes, on en parlera. Ouais.
Oui. Finalement, un certain nombre de personnes fortunées qui jouent sur les marchés financiers, ils n'ont peut-être pas besoin de jouer au loto parce qu'ils s'y jouent autrement. Sur les gagnants du loto, Monique Passant-Charlot et Michel Passant montrent très bien que ben, y en a assez peu qui pètent les plombs, justement, qui se mettent à dépasser complètement, que la plupart, en fait, utilisent leur argent d'apport pour s'acheter leur logement. pour s'acheter une maison. D'autres pour réaliser un certain nombre de rêves qu'ils avaient toujours eu. Alors, ils vont voyager, ils vont parfois s'acheter. Ça va souvent être la grosse voiture et la maison à priorité pour voyager. Certains s'offrent le luxe ultime d'arrêter de travailler. Mais finalement, il ne faut pas t'éteindre pas sur pleine main folle.
Et puis souvent, ils font des placements un peu à la papa.
Voilà, les institutions financières qui vont les recevoir et qui vont être intéressées par eux sont obligées de les pousser, de leur dire « Non, mais prenez plus de risques avec votre achat. »
Donc cette mythologie du gagnant du loto qui est complètement bouleversée parce que ce serait un pauvre qui ne saurait pas quoi faire de ce nouvel argent, elle est quand même bien écornée.
Elle est assez fausse. Il y a une phase de, effectivement,
de sidération.
Le moment, peut-être de sidération, parce qu'à un moment donné, le rêve se réalise et d'un seul coup, c'est comme tous les rêves qui se réalisent. On ne sait pas trop quoi faire et c'était pas prévu. Tu fantasmes à la réalité, il y a une qui se tasse. Mais finalement, il y a des consommations assez simples. Il donne l'aide simple d'un Kanyan qui était passionné de chasse. Alors, on passe ce qu'on veut de la chasse. J'ai mon avis sur la gestion, je ne suis pas fan, mais bon. Voilà. Mais lui, il est fan de chasse. Et qu'est-ce qu'il fait avec son marchand? Alors, il s'achète un gros 4x4 pour aller à la chasse. Et puis, il organise chaque année un gras repas avec tous ses copains chasseurs et une gras de chasse. Et il leur offre à tous, voilà, une gras de fête. Et il a acheté des terrains pour chasser et il refuse d'y mettre des panneaux pour empêcher les chasseurs de venir, les autres chasseurs de venir, parce que lui, ça le gonflait, il chassait, qu'il y avait des panneaux comme ça. Voilà. On passe tout au vœu de la chasse, bien sûr, mais c'est pas quelque chose qui est irrationnel et c'est pas quelqu'un qui pète les plans, c'est quelqu'un qui profite.
Normalement, très logiquement, comme ce qu'on attend de gagnant du loto.
Voilà. Et finalement, on peut même aller jusqu'à se poser la question, si cet achat revenait à des personnes plus fortunées, elles s'attireraient moins de bonheur.
Elles l'ont déjà.
Elles l'ont déjà. Donc oui, donner de l'argent aux pauvres, ça fait pas le bonheur, mais au moins ça y contribue un peu. Ça profite peut-être plus que la moyenne.
Alors on va revenir sur ce que c'est que d'être pauvre vraiment. Il y a un autre ouvrage dont tu parles qui s'appelle « Avis d'expulsion », qui est une étude américaine de Matthew Desmond. Et là, on a un bel exemple d'une personne qui fait n'importe quoi, d'une personne pauvre qui fait n'importe quoi avec son argent. Il s'agit d'une Américaine qui vit en caravane, qu'on voit claquer tout son chèque d'aide pour se faire un gueuleton monstrueux, genre le 7 du mois. Elle claque ses $80 avec son mec pour s'acheter du homard. Et après, elle n'a plus rien pendant le reste du mois, et alors qu'elle vit déjà dans des conditions...
Oui, elle vit à ce Mopilom, un trailer park, c'est-à-dire c'est un park américain de Mopilom. Elle vit l'assistance publique pour l'anniversaire de la mort de son mari. Elle fait ça à peu près chaque année, c'est d'après ce qu'on comprend, elle fait ça chaque année. Et elle claque vraiment tout, elle achète du homard, elle achète des tartes au citron.
Mais
elle
là, on voit bien que si on leur donne de l'argent, ils font n'importe quoi.
Ah oui, alors tout à plus que cette dame qui s'appelle la reine, elle achète aussi régulièrement
des crèmes
antirides extrêmement chères. Elle s'achète une crotte télé, elle a le câble, elle paye le câble pour avoir des émissions en plus. Matthew Desmond, qui a procédé par ethnographie, il a rencontré les personnes, il a passé du temps avec eux, voilà, il a passé tout le temps avec elle, il a suivi ses achats, sa vie quotidienne, etc. À un moment donné, il lui dit, tiens, je vais raconter ça, t'as mon bouquin, que tu viens de t'acheter pour $500 de crème à tirite, les chats vont pas comprendre. Et là, elle lui répond, j'ai fait ça parce que moi j'en ai envie.
J'en ai envie,
tout simplement. Et de toute façon, les autres, ils font plein de choses que moi je ne comprends pas. Donc voilà, je n'ai pas à me justifier. Elle lui oppose une espèce de... Voilà, je n'ai pas
alors,
à me justifier.
Cette nana est complètement... elle n'a pas d'argent. Hein. Après, derrière, elle ne mange pas pendant 15 jours. Elle fait la queue à la banque alimentaire. Elle galère pour se nourrir simplement. Hein.
Ce que montre Matthew Desmond, c'est que si on veut comprendre pourquoi elle fait tout ça, ce n'est pas parce qu'elle a trop d'argent. C'est parce qu'elle n'en a pas assez. Il fait cette simple réflexion. Si elle faisait des efforts pour essayer de mettre de l'argent de côté, pour ne pas faire toutes ces dépenses, effectivement, elle a l'air complètement inutile. Si elle ne les faisait pas, qu'est-ce qu'elle y gagnerait? Ça lui coûterait énormément d'efforts de se priver de plaisirs dont elle a besoin. Même des choses dont elle a besoin presque au quotidien. Elle paye par exemple le câble pour avoir des émissions de télé. Ça lui coûte très cher, mais elle a 60 ans. Elle travaille pas, elle a peu de chance de retrouver un emploi, de toute façon elle n'a pas de qualification, elle vit seule. Si elle n'a pas la télévision pour s'occuper, qu'est-ce qu'elle peut faire de ses journées? Elle n'a pas grand-chose d'autre. Si elle arrivait, si elle se privait de tout ça, si elle se privait de tous ses plaisirs, de toutes ces choses, il calcule qu'à trop, au bout d'un an ou deux cet effort monstrueux, elle aurait peut-être de quoi mettre l'équivalent d'un mois de loyer de côté. Ça la sortira pas de la pauvreté de toute façon. Même avec des efforts énormes d'économie, elle s'en sortira pas. Elle pourra pas. Donc, pourquoi mettre cet argent de côté? Pourquoi faire des efforts alors que de toute façon, elle restera pauvre à la fin? Et au final, elle claque effectivement littéralement cet argent pour avoir des moments de bonheur, d'appréciation, de plaisir qui lui permettent de supporter le reste de sa vie.
Alors toi, tu rappelles ce que c'est que d'être pauvre et tu rappelles également les multitudes de privations que cela suppose. C'est-à-dire ne pas être sûr de pouvoir payer son loyer, ne pas partir en vacances, ne pas pouvoir s'offrir une sortie par mois avec des amis, devoir couper le chauffage de temps en temps, ne pas pouvoir s'acheter de vêtements neufs, ne pas posséder éventuellement sa propre voiture.
Ne pas aller au restaurant.
Parfois, effectivement, claquer tout l'argent comme Lorraine, ça peut être une forme de décompression par rapport à une pression qui est permanente.
Voilà.
Alors, tu soulèves aussi un autre point, c'est que l'épargne, puisqu'on parle d'épargne, il n'a pas forcément la même forme chez les pauvres, c'est-à-dire qu'il ne se fait pas forcément financièrement.
Oui, ça aussi, c'est ce qu'a montré Anna Perret. Elle montre en fait, cette pratique chez les personnes avec de faibles revenus à utiliser leur argent dès qu'ils l'ont le plus rapidement possible. C'est-à-dire, on a touché le salaire vite, on file au supermarché et on remplit le caddie et on va stocker. On va stocker une partie de la nourriture sous forme de conserve, on va cocheler beaucoup. Elle montre que le cochelateur, t'as la cité, voilà, la cité HLM où elle achète. Les ménages qui n'ont pas de cochelateur sont non seulement plus pauvres que les autres, mais en plus, ils sont vus par les autres comme plus pauvres.
L'argent sur ton compte en banque, on peut te le prendre pour des histoires de dette ou de machin.
Si on laisse l'argent sur le compte à patte, il suffit qu'on ait oublié qu'il y avait une facture. Il suffit qu'on ait un PV, parce qu'on prend la voiture, etc. Il suffit aussi parfois que le choix. Alors, l'achat dans les milieux populaires, c'est beaucoup une affaire de femme.
Ah oui, ça c'est étonnant. C'est les femmes qui gèrent l'argent, en fait.
Ouais, c'est elles qui gèrent l'argent. En fait, c'est assez rigolo lorsque tu recartes rigolo, c'est pas non plus super marrant. Mais bon, lorsque tu recartes l'échelle de tes revenus, l'achat chez les riches, c'est une affaire d'hommes, c'est eux qui gèrent en majorité. Et chez les pauvres, c'est une affaire de femmes. Ça traduit un peu ce qui est l'argent pour ces différentes classes sociales. Pour les riches, l'argent, c'est une liberté. Du coup, c'est un truc d'homme. Pour les pauvres, l'argent, c'est une contrainte. Du coup, ça tope sur le taux des femmes.
Donc, et les femmes se retrouvent avec une double peine. C'est pas forcément elles qui le gagnent, l'argent.
Non.
Mais c'est elles qui doivent le gérer avec son lot de... de côté gendarme, de calculer, avec la charge mentale, en gros,
avec la charge mentale,
un budget qui ne tient pas.
Voilà, et parfois te voir jouer contre le conjoint.
Contre le
conjoint, il va avoir envie de te payer sa tournée au café, au bar, pour faire plaisir aux copains, et il a sa paye, mais non, il faut passer, les achats à faire pour les SAFA ou des choses comme ça. C'est sur les femmes que ça retombe.
Mais donc l'épargne, alors pour terminer sur ce sujet... Donc l'épargne, elle se fait éventuellement, par exemple, sous forme de nourriture. Alors de nourriture qui, en plus, n'est pas forcément fraîche, saine, locavore, bio.
Ah non, mais effectivement, lorsque tu consommes comme ça, et tu prends en pied, c'est rationnel de faire ça. Quand on est pauvre, quand on va toucher tout son revenu, de vite aller le dépasser pour éviter qu'il soit pris par autre chose. Ben, on peut pas se permettre d'acheter tes produits frais qui sont périssables, acheter tes légumes, etc. Peu importe que ce soit pas très cher, c'est juste que c'est pas cohérent avec la façon dont on souhaite l'utiliser, on veut le stocker. Donc, il faut pouvoir le cocheler, il faut aussi avoir des choses qui vont bien tenir au corps, qui vont finalement proposer beaucoup d'énergie pour un prix minimum, tes fétulas, tu riz, tes pâtes, de la viande, tes choses qui permettent de te tenir.
Et ça réglera pas forcément tous les problèmes, puisque si on a une dépense imprévue ou un problème de santé, c'est pas la boîte de féculents qui va...
Non, mais à même... Effectivement, si on a un problème de santé, si on a un imprévu, ça va pas régler le problème. En même temps, il n'est pas dit qu'avoir l'achat sur le compte, les régler, ni que l'achat soit resté là. D'ici à ce que le problème se présente. Par contre, ça a vraiment un effet de réassurance, c'est-à-dire de se dire, si jamais je perds mon boulot, si on a des difficultés, Au moins, on aura de quoi manger.
Alors, on va faire un petit point éco. Parce que tu rappelles que les revenus ont augmenté en France depuis les années 60, mais les dépenses aussi.
Oui.
Et notamment les dépenses non négociables, non arbitrables, comme on appelle ça, à commencer par le logement, hein, évidemment.
Oui.
Donc les dépenses ont augmenté en fait bien plus fortement que les revenus.
Voilà. Et surtout, c'est rajouter des choses. Alors le logement, le prix du logement notamment, tes loyers, un peu tout augmenté, constitue pour certains ménages parfois un tiers, voire la moitié de leurs revenus. Et la situation est pire aux États-Unis. Mais à France, on est encore relativement protégé. Il faut y ajouter ce qu'on appelle les TEPAS prêts à cacher, c'est-à-dire...
Dépenses préengagées.
Voilà, l'INSEE a tutré cette catégorie supplémentaire pour tes TEPAS, qui à soi ne sont pas tes TEPAS, comme l'alimentaire ou le loyer, dont on ne peut vraiment pas se passer, mais tes TEPAS sur laquelle la capacité à modifier les montants est difficile parce qu'on s'est déjà attaché par un contrat dessus. C'est par exemple les contrats d'assurance. On ne peut pas, tu chourres la main, on ne peut pas le mois prochain parce que chez moi t'achasse, dire je vais faire tes économies sur l'assurance. On peut faire tes économies sur les loisirs, mais l'assurance non. Et c'est rajouté depuis quelques années par tous les TEPAS d'abonnement. Abonnement téléphonique, abonnement internet, abonnement maintenant de streaming. Et ça donne une marge, une capacité de gestion pour les ménages, notamment les plus pauvres, beaucoup plus difficile. Si on prend les 10% de la population les plus pauvres et qu'on retire de leurs revenus ces dépenses inévitables, il reste pour d'autres, ça couvre le loisir, l'épargne, l'habillement, ben on tombe avec le chiffre à moyenne pour les 10% les plus pauvres, à moyenne 80 euros par mois qui reste de tout ça, te reste à vivre. C'est une moyenne. D'ailleurs, il y en a qui en ont moins. Nécessairement.
Et il y en a qui en ont plus.
Il y en a qui en ont plus, mais il y en a nécessairement qui en ont moins. Et 80 euros, ben, ça fait vraiment pas lourd. Et c'est comme le cas dont on parlait tout à l'heure de la reine. On peut mettre ces 80 euros de côté à se priver de loisir, d'habillement, de... Mais au bout d'un an, au bout de 200, est-ce que ça va nous sortir de la pauvreté? Probablement pas. C'est pas simplement un épargnant et un fat et c'est fort qu'on sorte de la pauvreté. Donc, à partir de là, pourquoi ne pas se payer cette perte de pastèque qui nous fait à vie? Pourquoi ne pas se payer ce smartphone dans ton avis? Pourquoi ne pas essayer d'avoir une petite raison de vivre? Et t'as une société où tout est fait pour pousser à la consommation, où la consommation est un moyen d'exister, ben, inévitablement, ça passera par ce genre de choses.
Tu... évoque le fait que quand on est pauvre, on a du mal à croire au lendemain ou même à vouloir y penser. Tu cites notamment des études sur le tabac dans les zones sinistrées par le chômage.
Oui.
Et en fait, on dirait que l'addiction à la clope, ça s'inscrit un peu dans cette logique.
Ça s'inscrit à partie, à trois parties, t'as cette logique, effectivement. C'est quelque chose qui avait été constaté par la sociologie, alors l'anthropologie aussi depuis fort longtemps, que l'horizon temporel des pauvres est plus restreint que celui des personnes avec plus de revenus. C'est-à-dire elles perçoivent, elles passent moins à l'avenir, elles planifient moins.
Peut-être parce que c'est pas très agréable.
Ah, parce que c'est pas très agréable, parce que c'est un futur qui est plein de difficultés. Et puis tu as certains cas, il faut bien le dire, parce que ce futur n'existe pas. C'est-à-dire que si vous prenez une personne qui a une cinquantaine d'années, qui fume, qui a été ouvrier toute sa vie, qui a toutes des maladies au sein ou d'autres problèmes de santé liés à son activité professionnelle, lui dire « arrête de fumer, ça te permettra de vivre plus longtemps ben, », il est possible que sa vie, de toute façon, à ce titre, ça s'éclate, qu'est-ce qu'il me reste à vivre? J'atteindrai peut-être pas la retraite. L'espérance de vie, on le sait, est très différente à fonction de tes niveaux de revenus, tes classes sociales, etc. C'est sept années de différence d'espérance de vie entre un ouvrier et un cadre. C'est plus à tort si on prend les revenus, les 10% les plus pauvres par rapport aux 10% les plus riches. Pour un certain nombre de personnes, c'est passer à l'avenir à ces termes-là, s'investir sur un avenir qui ne viendra pas parce que la mort arrivera à ta porte, c'est pas faisable. Ça se trouve, t'as tes formes encore plus fortes chez tes jeunes sommes, pris t'as tes questions, t'as tes réseaux de télé-chasse. de pauvreté. Ça a été le journaliste italien, auteur de Gomorra, avec Costa Tessa sur les jeunes mafieux de Naples. Ça se retrouve dans tes travaux sur les télétiens afro, les jeunes télétiens afro. Certains qui disent, voilà, moi, de toute façon, chez 20 ans, je ne vivrai pas jusqu'à 30 ans. Ça n'arrivera pas. Je vais me prendre une balle à Vassa, je vais me faire tuer d'une façon ou d'une autre. Et qu'il accepte, quelque part, par une forme de fatalisme. Et à ce cas-là, pourquoi essayer de passer dans une activité létale ou autre si on se dit, de toute façon, je vais y passer à Vassa. Si de toute façon, on a un avenir qui est bouché à ce point. Ben, ils peuvent faire le choix qui est rationnel. Que j'approuve pas, mais qui est rationnel si on se met à leur place.
Bah, qui est d'autant plus rationnel qu'en plus, il y a des exemples qui viennent le confirmer. Tu évoques le cas d'une autre étude qui a été faite sur des dealers de crack à New York,
ouais.
Avec notamment un des protagonistes qui avant se dit, mais tiens, j'ai quand même fait pas mal d'argent, il s'est bien débrouillé, il a plusieurs points de vente de crack, ses vendeurs sont pas super fans de leur métier, et il essaye d'ouvrir un commerce légal.
Ouais. Et il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas systématiquement. En fait, Philippe Pourcoit, le sociologue qui a mené cette étude, il est allé vivre dans East Harlem, qui est l'un des quartiers les plus difficiles de New York. À ce moment-là, c'était les Porto Ricains qui l'habitaient. Et effectivement, on a ce chef de gang. Il essaye plusieurs fois, il a toujours des projets pour essayer de passer à la légalité. Donc à un moment donné, il veut ouvrir une bodega, il veut battre des sandwichs. Ses deux dealers principaux sont super enthousiastes parce que ça va leur permettre de se sortir. Il va du crack, il reste debout toute la nuit, c'est super dangereux, ils le savent. Et ils sont enthousiastes. Mais à chaque fois, ça échoue simplement parce que... pour faire ces démarches légales, pour ouvrir un commerce légal, il faut faire tes démarches administratives. Il y a tes papiers à remplir. Et il ne sait pas suffisamment lire et écrire pour y parvenir. Et il n'arrive pas, en fait, à passer ces étapes parce que c'est sa habitude de la rue, c'est sa habitude. Ce qui a fait son succès, tu as le monde de la violence, de la délinquance, et pas du tout transférable, tu as le monde légal. Et l'autre, c'est dealers, justement, aussi régulièrement tâtent de trouver tes emplois légaux. Donc, ils trouvent un moment donné, ils trouvent un petit emploi, il est on m'a tout fait, t'as une entreprise. Et lorsque on lui donne des ordres, et notamment lorsque c'est une femme qui lui donne des ordres, il n'arrive pas en fait, à les respecter parce que tu es à la rue, on ne se laisse pas donner tort. On réagit, on refuse.
Et c'est une valeur en fait.
Et c'est une valeur.
C'est une valeur qui lui a permis d'arriver quelque part.
C'est ce qui lui a permis de survivre jusqu'après ça. Et transféré à son autre domaine, il n'arrive pas à se sortir. Il essaye. Il sait qu'il ne devrait pas. Mais il est menaçant et on va
le virer.
Et il est viré.
Alors le pauvre a des comportements de pauvres, à des ignorances de pauvres, et en plus à une sociabilité éventuellement de pauvres qui peut aussi lui couper les voies vers la sortie. Tu cites un ouvrage qui s'intitule Street Corner Society.
Je crois que la cite en sociologie.
Qui se concentre sur l'immigration italienne dans la banlieue de Boston dans les années 30, mais qui montre un truc qu'on pourrait assez facilement, je pense, transposer dans le monde d'aujourd'hui. On suit notamment... de jeunes qui grandissent dans cette banlieue de Boston. Un qui est parfaitement intégré dans ce quartier, Doc il s'appelle, qui a une sociabilité de quartier.
Ouais.
Et un autre, en fait, qui dès le début n'a pas d'amis, n'est pas du coin, et qui finalement s'en sort beaucoup mieux.
Oui, Cheech. Et en fait, Todd William Footwhite, qui est l'auteur du livre, qui pareil, lui a passé plusieurs années avec lui, ta starter, qui à l'époque était là, t'es plus chaud de Boston. Il suit les deux. En fait, Dodge est vraiment le chef de batte. Voilà, c'est le chef de la batte des Nortons. Et pour être chef de batte, il doit dépasser de l'argent à permanence pour occuper les choppers, pour
se faire respecter.
Il doit les amener au bowling, par exemple. Il doit leur prêter de l'argent lorsqu'ils en ont besoin, mais prêter, il ne va pas forcément avoir quelque chose à retour, parce que c'est tout le monde est à difficulté. Et c'est ce qui lui permet d'être le chef, c'est ce qui lui permet d'être respecté. Et ça a un vrai intérêt. À un moment donné, il a même la possibilité, alors il n'y parvient pas, mais il a la possibilité de se faire élire comme représentant du quartier au conseil municipal. Et ça aurait été pour lui une porte de sortie pour y parvenir, sauf que il lui match $200 pour financer la campagne.
Il n'a pas $200 pour financer la campagne. Ouais.
Il peut pas les trouver parce qu'en fait, il claque son argent à permanence. Mais s'il ne le faisait pas, il n'aurait pas eu les soutiens qui lui auraient permis de se mettre là. Donc, il était dans une situation où il
paradoxal.
Tu as dit que Tchitch, qui justement, lui, est, il vient d'une autre vague d'immigration italienne. Il vient pas, ses parents ne viennent pas du même village. Et donc, il est un peu exclu. Il est un peu exclu de la sociabilité du quartier. Lui arrive à aller à l'université.
Lui, tout son argent, il le garde pour lui, en fait.
Il le garde pour lui. Et,
il n'a pas d'amis, mais il n'a pas de problème de thunes.
Il n'a pas d'amis, il n'a pas de problème.
Il n'a pas envie de rester dans le quartier.
Il n'a pas envie. Et ça se retrouve ailleurs. Stéphane Beau avait écrit en 2003 ce bouquin qui s'appelait 80% au bac et après. Où en fait,
80% au bac et après.
Ouais, ils suivaient des jeunes hommes. C'était les premiers de leur génération plutôt. Voilà, leurs parents étaient immigrés ou leurs grands-parents étaient immigrés. Et c'était à 95, donc c'est ouvert. On ouvre un peu plus fortement l'accès au lycée pour les collégiens. Donc c'était ces élèves qui avant seraient allés à voie techno ou pro. Et là, ils vont à voie générale, ils vont à l'université. Et ils réussissent pas du tout à l'université. Ils s'en sortent pas du tout. Et Stéphane Beau les suit, essaye de comprendre pourquoi. Il se raconte qu'en fait, c'est parce qu'ils ne te viennent jamais étudier, parce qu'ils restent toujours tes camins du quartier. Notamment, ils continuent à vivre dans le quartier. Ils font les trachés pour aller à l'université. Devraient les faire, mais il ne les faut pas toujours parce qu'il faut trouver une voiture pour les amener. Ça n'en pas tous. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais en plus, ils sont à des sociabilités du quartier à permanence. T'as un chetois ça, un chetois autre service à un tel. Donc là, je ne pourrais pas aller à tour parce que je dois aller le voir. Donc, ils s'échouent à leur première année d'université parce qu'ils sont sans cesse rappelés au quartier et qu'il est très difficile d'en sortir. Alors Stéphane Beau, ce qu'il faudra de tels étudiants, c'est vraiment, c'est un internat en fait, c'est une cité universitaire qui les permettrait de les sortir complètement du quartier pour qu'ils ne soient qu'étudiants et qu'ils ne soient pas autre chose. Mais on retrouve cette même dynamique, les quartiers populaires, soit les cités HLM, mais aussi certains villages en milieu rural, ce sont des lieux de très forte sociabilité, tout le monde se connaît, on connaît énormément déjà, et c'est un espace qui a aussi quelque chose d'accueillant. On a tes amis, on est soutenu, parce qu'on a toute sa vie qui est là. On a les copains, on a les copines, on a les amis, on a la famille aussi. Et il y a un très gros coût à sortir de ça. Et ça a donc un vrai effet d'attraction sur les individus. C'est dur à sortir. Pas tel ça sous les sortes où ça n'empêchait, mais tel ça où ça a un coût énorme à sortir et de se confronter à quelque chose de nouveau. Et ça implique des modes de consommation particulières. Dépasser son argent pour payer de ses coûts à poire aux copains quand on est pauvre, quand on n'a pas beaucoup d'argent, ça peut s'appeler irrationnel. Ça peut s'appeler même mauvais pour la santé parce que ça peut conduire à l'alcoolisme, tout ça. Mais c'est aussi le moyen d'avoir une bonne réputation. Avoir une bonne réputation chez les copains du village, c'est la possibilité, lorsqu'il y aura une place dans une entreprise, sur un châtier, quelque part, que vous soyez recommandé par ceux qui y sont déjà. Et en fait, c'est le seul moyen d'accéder à l'emploi, souvent, parce que comme il y a peu d'emploi, en fait, on ne se lirait pas. Les patrons te mettent à leurs employés, tu as quelqu'un à recommander, et tout se fait par réseau. Donc, c'est très difficile d'en sortir parce qu'on s'est adapté à vivre comme ça.
C'est aussi éventuellement le moyen d'avoir des clients. Tu évoques toute l'économie souterraine, mmh, avec beaucoup de talents qui sont diffus, cachés, parfois clandestins, qui va de l'atelier de confection un peu clando, mmh, à la cuisine.
Et à la restauration.
À la restauration, au bricolage, à la mécanique. Mmh. Avec tout ça va se faire au black,
oui,
souvent avec de l'argent liquide.
Ça va être des modes de survie qu'on va adopter, mais qui se jouent sur la réputation tel quartier, sur la réputation proche, et qu'il est très difficile de transformer en activité légale, justement, parce qu'elle s'existe, parce qu'il est légal. Et donc, on a des modes de vie comme ça qui sont parfaitement compréhensibles et rationnels, mais qui en même temps enferment les activités à ces situations.
La disparition de l'argent liquide, d'ailleurs, progressive, est un vrai problème,
oui,
pour les plus pauvres, pour les catégories populaires, en
oui,
fait.
Oui, oui. Ça,
c'est, et pour tout ce marché du black.
Oui, et aussi pour tes questions de tétiote, de façon de tchoter, où on préfère parfois disposer de l'argent liquide, le mettre à tes enveloppes pour le prédestiner à différentes activités, plutôt de l'avoir sur un tchot à patch, où il peut toujours être pris plus facilement.
Par les huissiers.
Par les huissiers, par une facture à prévu ou des choses comme ça. Toi.
Un petit point sur la mobilité sociale. Mais alors, du coup, elle existe ou pas, la mobilité sociale?
Il y en a, mais elle est difficile à mesurer. Le problème, c'est que lorsqu'on parle de mobilité sociale, alors on a deux pieds sur la mobilité sociale. Déjà, on se représente les choses simplement comme le fils d'ouvrier qui devient cadre ou qui devient le pauvre qui devient riche, le fils de pauvre qui devient riche. Ça existe, mais ça, de toute façon, ça reste très, très rare.
très marginal.
Et l'autre biais, c'est de passer à la mobilité sociale. Simplement, tu as le terme que j'en utilise le plus souvent, c'est l'assasseur social. Et on dit l'assasseur social est à panne. Et on a cette représentation d'un phénomène individuel. C'est-à-dire que tes attitudes, ils mentent. Si on a eu à l'époque, pendant les Trappes Glorieuses, une impression de très forte mobilité sociale, c'est pas parce qu'il y avait un assasseur social et que les attitudes montaient individuellement. C'est parce que tout le monde est monté, parce que les conditions de vie générales s'amélioraient, parce que les conditions de vie de salaire des ouvriers devenaient meilleures, parce que l'école s'ouvrait, qu'on voulait avoir plus de diplômés derrière. C'est un mouvement collectif. Et aujourd'hui, ce qui manque peut-être, c'est ce mouvement collectif d'amélioration des situations. Et pas simplement de mobilité.
Il peut y avoir des individus, mais il n'y a pas de
mouvement de masse. Il peut y avoir des attitudes rares, mais il n'y a pas un mouvement de masse. Et surtout, il n'y a pas forcément, pour les plus pauvres, d'amélioration collective. On peut, à un moment donné, on pourrait imaginer une société dans laquelle on aurait une plus forte probabilité pour les pauvres de devenir riches, mais toujours autant de pauvres. Qu'est-ce qu'on atteint en fait par mobilité sociale? Est-ce que ça ne devrait pas être aussi que les pauvres soient moins pauvres, que leur situation s'améliore?
Alors, en même temps, pardon de te couper, mais en même temps, les pauvres, ils ne font pas beaucoup d'efforts. La preuve, c'est que les pauvres, il y en a plein qui ne touchent pas le RSA auquel ils ont droit.
Oui, le problème des non-retours.
On parle de 5 milliards quand même. Hein.
Oui.
Donc, il y a 5 milliards d'euros par an qui devraient être distribués et qui ne le sont pas.
Parce que les démarches sont compliquées, parce que certains ne veulent pas les faire pour des raisons d'honneur, de statut social, parce qu'ils pensent que ça ne vaut pas la peine, qu'ils ne sont pas vraiment pauvres et qu'ils s'en sortiront entre mains. Parce que les démarches sont compliquées, parce que les personnes ne sont pas forcément au courage, elles sont trois. Bref, le problème du non-retour est quand même un problème assez large. Et quand on parle de démarche compliquée, il faut bien comprendre ce que ça signifie. C'est vraiment, on disait tout à l'heure que pauvre, ça pouvait être un boulot à plein temps. Lorsqu'il faut aller faire la queue longtemps devant tes administrations pour déposer tes dossiers, parfois avec tes rendez-vous pris plusieurs mois, si ce n'est années à l'avance, ben ça prend énormément de temps. Et une partie de l'expérience de la pauvreté, c'est l'expérience de l'attente. On attend quelque chose, on fait la queue. On fait la queue pour un guichet administratif, on fait la queue pour obtenir un emploi, pour obtenir un
pour
travail.
Pour une promotion au supermarché.
Voilà, on fait la queue pour plein de choses, on attend. Et parfois, si on ne peut pas faire payer les pauvres un argent, on les fait payer un temps, simplement les faisant attendre.
Tu montres que l'allocation chômage, d'ailleurs, n'a pas la même couleur, en quelque sorte. Elle est moins compliquée à avoir peut-être, et puis surtout on a cotisé pour l'avoir, donc on la mérite plus, on la demande plus.
Voilà, c'est un deux générations, t'as la débine dont on parlait tout à l'heure. Ils montrent ça sur les ouvriers au chômage tels peuvent, qui sont très attachés, qui vont parfois faire tes lettres, même s'ils ont des difficultés pour écrire, des choses comme ça, ils vont faire tes lettres pour réclamer le paiement de leur allocation chômage s'il leur a été refusé, parce qu'ils le savent vraiment comme état la récompense de leur travail. Ils sont travaillés, c'était dur.
Ça paraît plus légitime.
Voilà.
Ils sont des deux côtés. Ils sont à la fois dans la société qui a cotisé.
Voilà.
Et ils en sont bénéficiaires.
Et ils sont le sentiment que ça vient de leur travail, de ces revenus du travail auxquels ils sont droits. Et ils ont raison en plus. Ils ont raison. C'est un revenu du travail, on a cotisé pour. C'est simplement qu'un certain nombre de discours depuis quelques temps politiques présentent ça comme l'équivalent d'une assistance et surtout comme quelque chose qui n'est donné aux personnes que pour les obliger à reprendre leur travail. Alors que t'as le principe même, c'est une assurance. Si demain j'ai un accident de voiture, que je me fais indemniser, que mon assurance m'indemnise et que je décide d'utiliser cet argent pour me payer tes vacances aux Bahamas plutôt que me racheter une voiture, personne ne va me le reprocher. Mais par contre, on va reprocher à la personne qui vient de perdre son emploi, qui touche les allocations chômage, de prendre peut-être 2 semaines pour souffler avant de se remettre à chercher un emploi. Mais pourquoi pas, à la rigueur.
Alors, selon le Secours populaire, 60% des Français estiment avoir déjà été sur le point de basculer dans la pauvreté. Je rajoute un chiffre. Plus de la moitié des Français craint de devenir SDF. C'est possible, ça? Je peux devenir SDF demain? Tu peux devenir SDF
Alors,
demain?
Rien n'est impossible à soi. La probabilité reste quand même relativement faible.
Qu'est-ce que c'est que cette peur? On est terrifié, en fait, hein?
Oui.
La moitié de la population qui a peur de devenir SDF.
C'est le signe que juste où va le stigmate de la pauvreté. C'est-à-dire, on sait que la vie des pauvres est particulièrement difficile. Et on sait que si on est pauvre, on n'aura rien. Et c'est très paradoxal, t'as à la fois pressenté régulièrement, t'as les discours politiques ou médiatiques, la pauvreté, comme voilà, c'est des gens qui en profitent, qui sont au RSA et qui font rien, qui sont des fainéants, etc., etc. Et ça a l'air tellement bien d'être pauvre dans certains discours politiques. Et en même temps, les gens ont fondamentalement peur. Ils sont peur parce qu'ils savent très bien que ce n'est pas si bien que ça, que ce n'est pas si merveilleux que ça et qu'on n'en profite pas. Et que non, c'est une situation qui est absolument terrible. Cette peur de la pauvreté serait ça toute moins forte. On aurait moins peur de tomber à la pauvreté si on savait qu'il existe des filets de sécurité pour nous rattraper. Des revenus d'assistance plutôt sécurisés ou des choses comme ça. Mais ces filets n'existent pas, on sait qu'ils sont très improbables, donc on en a peur.
On entend pourtant beaucoup des gens au SMIC dire « Ah bah là, moi j'ai moins de facilité que des gens qui ne travaillent pas, je paye plus de cotisations sociales, je suis moins,
oui, mais
je suis moins couvert en termes de santé, je n'ai pas la CMU. »
Ça, c'est la façon dont a été construit finalement la pauvreté comme problème. Depuis des années, tu as les discours politiques lorsqu'on parle de pauvreté. C'est pas pour parler de la difficulté de la vie des pauvres, mais c'est pour parler de leurs privilèges accrus. Et que le problème de la pauvreté n'est plus défini comme l'existence de personnes pauvres, mais comme l'existence de revenus pour les personnes pauvres. Comme si supprimer ces revenus allait, ça a même été théorisé par certains économistes, c'est la thématique de la trappe à pauvreté. Si vous donnez des revenus aux pauvres et aux chômeurs, ils vont rester au chômage parce que c'est plus confortable. En fait, t'as les évaluations empiriques, ça marche jamais. Ça se rachotera pas. C'est pas
ça ne marche jamais. Hein.
Voilà, non.
C'est pas parce qu'on supprime l'allocation pauvreté, enfin l'allocation plus pauvre, que ça supprime
non,
les pauvres.
Non, non. Et par contre, ce qu'on peut voir et ce que montrent les travaux de sociologie sur la pauvreté, c'est que par contre, il y a une trappe à pauvreté, mais qui est différente, qui est que quand vous êtes pauvre, vous devez adopter des modes de consommation et d'utilisation de l'argent. De pauvres, parce qu'ils sont rationnels, parce que t'es passé de son achat tout à coup pour stocker, c'est rationnel, parce que acheter tes biens ostentatoires inutiles pour vous faire plaisir et pour tenir le coup face à la pauvreté, c'est rationnel. Effectivement, c'est pas tes stratégies qui vous permettront de sortir de la pauvreté, c'est peut-être tes stratégies qui vont vous affermer à partir de la pauvreté. Mais c'est imposé par la situation de pauvreté. S'il y a bien une trappe à pauvreté, c'est ça. C'est pas qu'il y a trop d'argent, c'est qu'il n'y en a pas assez pour permettre aux personnes de sortir de la pauvreté. Si on veut que les personnes retrouvent un emploi, se lassent dans une petite entreprise, créent un petit commerce ou des choses comme ça, ce temps, ils ont besoin. C'est pas d'un bâton qui les pousse alors qu'ils disent « Voilà, tu dois faire ça parce que sinon tu vas mourir de faim. » Ce temps, ils ont besoin, c'est une sécurité minimale pour pouvoir se lasser d'un tel projet. Un certain nombre de personnes en situation de pauvreté auraient besoin de reprendre des études, faire un petit diplôme professionnel, voire un diplôme, tout type de diplôme, mais ne le font pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et les réintégrer, leur permettre d'avoir des revenus qui leur permettraient de se lasser d'un tel projet pourrait être une solution pour les sortir de la pauvreté.
Je reprends le fait qu'on a si peur de la pauvreté. Toi, tu dis que c'est parce que la pauvreté, en fait, on voit bien que c'est terrifiant et que être pauvre, c'est vraiment très, très relou. D'ailleurs, tu dis, en fait, les pauvres sont comme tout le monde. Hein. Il y en a des fainéants, des idiots ou des très malins, mais ils sont comme tout le monde, l'argent en moins.
Voilà.
C'est ça, en fait.
Hein. Ils jouent, j'aime bien dire aussi, qu'ils jouent leur vie à un mode difficile.
Comme en mode difficile, comme dans un jeu vidéo.
Dans un jeu vidéo. Quand on a de l'argent, on joue en mode facile. Parfois, on joue bien, parfois, on joue mal, parfois, on gagne, parfois, on perd. Mais c'est un mode facile, donc ça sort mieux. Quand on est en mode difficile, parfois, on gagne, parfois, on perd, parfois, on joue mal, parfois, on fait des erreurs, on se trompe. Mais le tout est beaucoup plus important.
Et tu dis aussi que finalement, puisqu'on pose beaucoup de questions sur l'héritage, hein, c'est aussi dans les débats politiques, la pauvreté, elle, c'est d'abord un héritage.
Oui, ça s'hérite assez
bien. Ça se transmet.
Oui, oui. D'ailleurs, la saturation de certains discours politiques autour de la question de l'héritage est assez fascinante parce qu'on en a beaucoup parlé sur ne pas trop taxer l'héritage, etc. Alors qu'en fait, la majorité de la population va peu hériter Et une grande partie de ceux qui vont hériter quelque chose, ça va être la pauvreté. Alors, elle n'est pas taxée, c'est vrai. L'héritage de la pauvreté, il n'y a pas de taxe dessus, il n'y a pas d'impôt dessus, mais en même temps, il n'y a rien.
Mais donc, le meilleur moyen de devenir pauvre...
C'est à toi de naître pauvre, c'est à toi de naître dans un milieu pauvre, avec toutes les difficultés que ça va aller par rapport à la scolarisation, au mode de vie, à l'exposition aussi parfois à tes formes de maladies. Tu as le logement. À 2020, il y a une surmortalité. Tu as les quartiers pauvres urbains à Seine-Saint-Denis notamment, beaucoup plus fortes que tu as le reste de la France. Ça a été assez bien mesuré. Les premières victimes du coronavirus, ça a été les pauvres. Parce que ils sont sur ceux qui travaillent sont sur tes activités, alors soit illégales, qu'on ne pouvait pas stopper parce que illégales, soit légales, mais qui sont plus exposées parce qu'on est caissier, on est caissière, on est aide-soignant, on est livreur, et donc on a continué à travailler pendant ce temps-là parce qu'on prend plus souvent les transports en commun. Parce qu'on n'a pas d'autres moyens de faire, parce qu'on ne peut pas faire du télétravail, parce qu'on vit à tes logements plus petits, plus insalubres, plus nombreux, avec plus souvent plusieurs générations, plus souvent les trois parents qui vivent avec les parents et les enfants que dans d'autres ménages. Et toi, tu en as meurs plus.
Tout à l'heure, quand tu parlais de ce type qui s'opposait à sa chef au travail, qui était une femme, c'est-à-dire qu'il y a ça aussi. En plus, les pauvres, bon, alors, on a vu qu'ils avaient plein de défauts, mais souvent, ils sont machos, par exemple, ou ils ont un rapport au genre, par exemple, qui est beaucoup moins ouvert que dans les classes bobos.
Oui, on peut le dire comme ça. Tout ça, c'est souvent comme ça qu'on se présente. C'est pas entièrement faux qu'on voit ça tout comme un vote, même s'il faudrait être plus fait là-dessus. Lorsque vous êtes un homme de classe populaire et que vous cherchez un travail, l'une des choses qui va pouvoir vous étonner, c'est la force physique. Et c'est finalement être à tes poulots de mec. Avec tout ce que ça peut avoir de caricatural.
Exemple de boulot de mec ?
Le boulot sur les chantiers, par exemple, le bâtiment et travaux publics. Tout ce qui est maçonnerie, manœuvre, etc.
Vigile ?
Vigile aussi.
Sécurité ?
Si vous voulez être vigile, il vaut mieux être gras et très très masculin. Et même on sait que les vigiles, alors on le constate, c'est souvent des personnes de peau noire. Et c'est à partie parce que c'est cherché par les employeurs, parce que ça fait plus peur, parce qu'on est dans une société raciste, il y a plus facilement peur des personnes à la peau noire.
Donc en fait, c'est un gros cliché de l'employeur.
C'est un cliché, mais qui est suffisamment fort pour s'imposer comme ça. Et lorsque vous êtes une femme de classe populaire qui cherchait un boulot, votre féminité est un moyen d'accéder au travail. Les sept soignantes, si c'est plus souvent tes sept soignantes que tes sept soignants, c'est parce qu'on s'attend à voir tes personnes qui ont des comportements plus maternels et qu'on suppose que ça vient plus facilement aux femmes. Les assistantes maternelles, ce sont essentiellement tes femmes.
Les nounous.
C'est
même les nounous de bobo, finalement.
Oui, voilà. On choisit beaucoup plus facilement des femmes pour cet emploi. Et en plus, sur les nounous, il y a aussi des travaux qui montrent que ça se retrouve d'une dimension raciste. Voilà, la nounou noire africaine qui est censée être naturellement maternelle parce que les Africaines, on le sait, sont comme ça. Alors déjà, les Africaines, on appile les clichés racistes. Je suis désolé, hein, mais c'est...
Il y a des études qui ont montré ça, qui ont montré qu'il y avait vraiment un privilège
à
l'emploi dans ce cadre-là.
Oui, il y a un privilège. C'est peut-être un cramo. En tout cas, il y a un mode de sélection des nounous. Oui, une nounou noire. On va chercher aussi, t'as certains milieux, les nounous philippines. Parce que les Philippines, il paraît que c'est la Rolls Royce des nounous. Voilà, aussi, tu as cette expression un peu raciste, problématique, parce qu'elles parlent anglais, parce qu'elles sont censées être... donc, elles peuvent transmettre l'anglais aux safards. À certains milieux, c'est recherché, parce qu'elles sont censées être autoritaires, tout un état maternel. Enfin, vraiment, tes clichés racistes, mais que les chats utilisent.
Et qui ne viennent pas des populations concernées, en fait, qui sont directement issues. De la société dans laquelle...
Voilà, qui vient de tout un héritage colonial. L'image de la femme africaine maternelle, ça a une autre histoire coloniale. Alors, je suis désolé, il y a une historienne qui a travaillé récemment là-dessus, qui montrait comment c'était la médecine française en Afrique qui avait constitué ce discours sur la femme africaine noire qui est maternelle et qui a peau tout à fond. Parce qu'à un moment donné, on estimait que les femmes françaises ne faisaient pas assez d'enfants, et toi, on allait leur donner un exemple, la femme noire africaine qui, elle, a peau tout à fond et qui réalise ainsi sa féminité.
J'aimerais bien terminer sur un point particulièrement vicieux que tu soulèves sur l'utilisation de l'argent des pauvres, qui est ce que tu appelles le business de la pauvreté. Mmh. Il y a tout un marché en réalité qui permet aux pauvres de dépenser leur argent, mais souvent à leurs dépens.
Oui, c'est-à-dire les pauvres payent plus cher certains produits que les riches, et parce qu'on va leur vendre tes produits de mauvaise qualité ou on va leur vendre à crédit. Et on a des entreprises qui vivent vraiment de vendre des produits très chers aux plus pauvres. Les crédits à la consommation, c'est ça. On va apporter de l'argent à un taux extrêmement élevé. On va vendre ces crédits aux plus pauvres. Alors, qui ça, ne vous affaite pas. Bon, vous ne comprenez pas bien ce que vous signez, mais c'est pas grave. On va jouer aussi sur les inégalités de capital culturel, sur les effets de domination, le fait qu'on a des personnes qui ne sont pas habituées à parler avec le personnel de l'institution financière. Voilà, on va jouer sur ces inégalités aussi socio-culturelles, en termes de niveau de diplôme et autres, pour leur vendre très cher des crédits qui peuvent les faire tomber dans le surentêtement et aller. Les problèmes. Et pourquoi ils acceptent ces traités? C'est parce que souvent, ils n'ont pas le choix. Ils ont besoin d'un peu d'argent pour boucler la fin du mois, pour essayer de tenir, pour essayer de se maintenir à l'eau. Mais on a une forme d'exploitation de la pauvreté. On met toutes sortes de facilités de traités. On dit aux gens, mais vous avez 7 jours pour vous rétracter, mais signez tout de suite, ne réfléchissez pas trop. Je sais qu'on peut se dire, ouais, mais finalement, c'est la faute des pauvres. Ils sont déjà à parvenir à résister. C'est pas si facile. D'une façon générale, voilà, beaucoup de choses que font les pauvres et qu'on peut leur reprocher. Tout le monde le fait aussi. Acheter tes produits, t'en as pas besoin. Faire un achat sur un coup de tête et t'es passé trop d'argent alors pour un objet totalement inutile, tout le monde l'a fait.
Laisser filer une facture, une amende, pas renvoyer un papier.
La seule différence, la seule spécificité des pauvres, c'est qu'ils sont pas l'argent et que ça leur coûte plus lorsque ça arrive. Et finalement, je sais que c'est décevant d'avoir écrit un livre de, je ne sais plus, 340 pages pour arriver à la conclusion que le problème de la pauvreté, c'est le match d'argent. Mais en même temps, on met tellement d'énergie, collectivement, à nier ce point, à se dire que le problème des pauvres, c'est tout sauf l'argent. C'est un problème culturel, c'est un problème de diplôme, c'est un problème de pratique, c'est un problème de plein de choses, mais ce n'est pas un problème d'argent. Moi, j'essaie juste de dire que si, en fait, oui, c'est un problème d'argent et c'est avant tout un problème d'argent.
Et si on donnait plein d'argent aux pauvres, résoudrait tout ?
Je sais pas si ça résoudrait tout. Ça résoudrait en tout cas un certain nombre de problèmes. On aurait ça toutes moins de pauvres. Il y a eu des expérimentations du revenu universel essentiellement, de cette idée de on va donner un revenu additionnel à toutes les personnes. Et lorsqu'on l'a fait, et lorsqu'on a fait ça aussi, tu as des pays pauvres, c'est la prix Nobel Esther Duflo qui s'était spécialisée, elle a fait, tu as toutes sortes de pays à développement. Donner de l'argent, sa cotisation aux personnes et revoir au bout d'un moment ce qu'il arrive. On se raconte que lorsqu'on fait ça, les personnes pauvres, si c'est un niveau suffisant, ils s'assurent pour sortir de la pauvreté, ils créent un petit commerce, ils reprennent des études, ils parviennent à trouver un emploi ou des choses comme ça. Et pour les centres, on se raconte que ça fait baisser les consommations de drogue, de tabac, d'alcool, que ça améliore leur alimentation, que ça améliore leur condition de vie, que ça limite les problèmes de santé, donc quand même, que ça règle pas mal de problèmes. Ça marche, c'est efficace pour lutter contre la pauvreté.
Tu veux dire qu'en fait, le problème ne serait pas des problèmes d'intégration, de culture, d'éducation, de diplôme, juste des problèmes de thunes, en fait.
Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas des problèmes, par exemple, de diplôme derrière. C'est toujours bien de chercher à former les gens et à tisser tes diplômes et que les diplômes soient efficaces sur le marché du travail. On peut estimer que les gens n'ont pas suffisamment accès à un certain nombre de biens culturels et souhaiter qu'il y ait plus de théâtre, plus de cinéma et des choses comme ça. Tout ça est très bien. Mais si on veut lutter contre la pauvreté, la meilleure façon de faire, c'est encore de donner de l'argent aux pauvres. Et ça marche, c'est efficace, c'est simple, c'est pas très très compliqué, ça règle un certain nombre de problèmes. C'est quand même une solution qu'on pourrait appliquer, mais on le fait pas essentiellement pour des raisons politiques. Parce que politiquement c'est coûteux, parce que politiquement on est parfois piégeant, hein, qu'il y ait des pauvres. Parce qu'ils peuvent prendre les emplois que nous, dont nous on ne veut pas. parce qu'on n'est pas obligé de les payer trop cher pour les prendre. Parce qu'on est piège au tas d'avoir un livreur Uber à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit qui vient nous apporter quelque chose à manger, et même s'il est très très mal payé, que nous on n'a pas à payer beaucoup plus pour ça. Finalement, on est nombreux à exploiter la pauvreté.
Voilà, c'est fini. Vous avez écouté Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel. La post-production en est assurée par Jean-Paul David sur une musique toujours d'Emma Bixon. Si vous pensez que vous avez une histoire particulière par rapport à l'argent, ou si vous voulez nous faire part de vos commentaires, vos critiques, vos envies, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux. À très bientôt. Mais avant l'épisode, j'aimerais vous rappeler que notre premier sponsor, c'est vous. Pour faire thune, vous savez qu'on a besoin de thunes. Ça prend du temps, du travail de montage, de journalisme. Je vous épargne le fichier Excel des coûts. Mais à vous qui kiffez thunes, pour assurer notre indépendance financière et pour que ça continue, eh bien, il n'y a qu'un moyen, la cagnotte Tipeee. Sur Insta, via le lien en bio, ou sur Google, en tapant Thune Podcast Tipeee, avec 3 E, T-I-P-E-E-E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous.